Les personnes d'un certain âge emploient parfois une expression dont on n'a plus trop l'usage, évidemment, elle est un peu surannée, qui est mystère et boule de gomme. Et apparemment, c'est une expression qui remonte au début du XXe siècle, donc à la fin du millénaire précédent. C'est dire que c'est ancien. Alors pourquoi je dis ça? Parce que Paul évoque aujourd'hui un mystère. Il nous parle de mystère aujourd'hui. Alors pour les gens, un mystère, c'est quelque chose de mystérieux. Très mauvaise définition, puisqu'on ne définit pas un terme en employant un mot de la même famille dans la phrase. C'est une crétinerie congénitale de faire ça. Donc un mystère, c'est une réalité pour les gens inexplicable et inexpliquée, qu'on ne peut pas comprendre. En réalité, c'est pas ça un mystère. Ce n'est pas quelque chose d'impénétrable. Un mystère, au moins en ce qui concerne la théologie, la science de Dieu, un mystère, c'est quelque chose dont on n'a jamais fini de faire le tour. C'est quelque chose d'inépuisable. C'est sans fin. Donc, dans ce sens-là, on n'arrive effectivement pas. On ne peut pas mettre la main sur un mystère, par exemple. On n'a jamais fini de faire le tour, mais ça ne veut pas dire qu'on puisse en dire rien. Et Paul nous parle effectivement ici du mystère de l'Église, finalement. Hein. C'est tout de même assez extraordinaire ce qu'il arrive à écrire. Mystère caché depuis toujours en Dieu. C'est quand même. Voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas accessible, c'est quelque chose qui n'a pas fini de se déployer. Autrement dit, ce mystère, c'est. Le terme est vraiment analogique. Hein. Voilà. Ça veut dire que c'est quelque chose qui continue indéfiniment de se déployer. On n'a jamais fini de réunir les païens aux autres, de nous réunir entre nous. La construction de cette église est mystérieuse. Et donc c'est ça. Alors, j'en profite pour dire que Torah, Tura, Tur en hébreu, ça veut dire tourner autour, scruter. Ça a donné Torah. Donc finalement, la Torah, on pourrait dire que c'est cette position qui nous permet de tourner autour du mystère. Cette nourriture que nous recevons dans la loi, dans la parole de Dieu, dans tout ce que Dieu a pu dire, nous permet précisément de tourner autour du mystère. Je trouve que c'était intéressant. Et donc ça, ce mystère, on ne le connaît que par l'Église. C'est quand même quelque chose, hein. C'est écrit, hein, sauf erreur de ma part. Voilà. Désormais, les forces invisibles elles-mêmes connaîtront grâce à l'Église. Alors, il y a quelque chose d'assez bouleversant dans cette phrase, hein. C'est que ce que dit Paul, c'est que donc les puissances invisibles, bon bah c'est le monde angélique. Hein. Le monde angélique va apprendre quelque chose par une réalité créée, comme sont créés du reste, qui est l'Église, mais une réalité visible. C'est assez extraordinaire de penser que l'Église révèle aux anges quelque chose. C'est quand même ce qui est écrit. Hein. Voilà. Et de fait, c'est à partir du moment où, à l'ascension, qu'est-ce qui se passe à l'ascension? Bon, Jésus remonte au ciel, très bien, mais il ne remonte pas au ciel comme, j'allais dire seulement, si on peut dire. Il remonte au ciel comme roi de l'univers. Donc, il ne remonte pas au ciel simplement comme roi des êtres humains. Il remonte au ciel comme roi des anges. Du fait de son humanité, hein, glorifiée. Parce que comme Dieu, il était au-dessus des anges. Hein, donc, voilà, c'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que une réalité créée dans son humanité, hein, voilà, qu'il a assumée, le place au-dessus des anges. Qui signifie que l'Église est au-dessus des anges. Enfin, elle révèle quelque chose de Dieu. Ben, quand on y pense, alors c'est de la théologie un peu difficile, hein, mais. Voilà, et alors pourquoi c'est important? Ben, parce que c'est là que nous servons. Vous êtes peut-être jamais venu à l'idée que les anges nous envient. Ils sont à notre service, nous qui sommes dans la construction de l'Église. Alors eux aussi, ils sont partis de l'Église. Mais précisément, il a fallu que l'Église existât pour qu'ils trouvent cette place qui est la leur. Donc l'Église nous conduit à la révélation de la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, c'est que nous sommes tous appelés à l'unification, appelés à l'unité, appelés à la construction en tant que membre de l'Église. C'était déjà un peu le thème d'hier. Et en fait, cette révélation de la sagesse de Dieu, elle est accessible par la foi. Voilà, c'est la foi, la première étape, le premier étage, première démarche, la première situation dans laquelle on doit se trouver pour pouvoir comprendre que nous faisons partie d'une Église et y agir là où nous le devons. Vous voyez que ça reste quand même un mystère, hein, parce que c'est pas facile à scruter. Ça reste même un mystère dans tous les sens du terme. Hein. Et puis, voilà, c'est aussi un mystère parce que, mais c'est immense, quoi. Voilà. Alors, dans l'Évangile, eh bien, c'est encore génial. Hein. C'est quand même dingue, quoi. Dans l'Évangile, c'est la mise en action de cette foi. Voyez. Pour les humains. Alors pour les anges, on ne sait pas. Mais pour les humains, c'est la mise en action de cette foi. Et ça consiste à quoi? Ça consiste pas simplement à être prêt. Hein. Parce qu'on peut être prêt à rien faire. Il est urgent de ne rien faire. Bon, ça arrive des fois, hein, il faut attendre. Mais là, il ne s'agit pas simplement d'être prêt, il s'agit de s'attendre. S'attendre à la venue du Christ, ok, c'est quasiment ce que je viens de dire, mais c'est pas tout. Il s'agit pas simplement d'attendre. Quand vient-il frapper à la porte? Comme je le disais hier, hein, ça change quand même une vie si quand quelqu'un frappe à une porte, on se dit, tiens, c'est peut-être Jésus qui est derrière. Essayez de faire l'exercice aujourd'hui, vous allez voir ce qui va se passer. Hein. En vrai, hein. Bon. Et de toute façon, c'est vrai, puisque chaque créature est à l'image du Christ. Hein. Bon, ça va loin tout ça. Donc, s'attendre chacun à sa place, ou plus exactement, à sa fonction. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Et alors, la charge, la fonction, c'est quoi? Eh bien, la fonction, dans ce que Jésus raconte, une parabole. Voilà, il va dire, la charge, c'est de distribuer la nourriture. L'Église est une mère qui nous nourrit. Nous devons distribuer la nourriture les uns aux autres. Nous distribuer la nourriture. Alors il y a évidemment, bon, bah, on voit bien, hein, la charge du prêtre, c'est de distribuer la nourriture eucharistique. La charge du diacre et du prêtre et de l'évêque, c'est d'enseigner, de distribuer la parole de Dieu, de distribuer la richesse insondable de la parole de Dieu. Le fidèle, il a aussi cette charge, hein, de se nourrir et de la répandre dans sa vie, ou peut-être même en prenant directement la parole, dans telle ou telle assemblée, des groupes bibliques, que sais-je. En fait, il s'agit de remettre ce que Dieu donne. de le retransmettre. En fait, c'est un dispensaire, quoi, si vous voulez. Voilà. Et donc, si on ne le fait pas, eh bien, on se met à maltraiter les autres. Vous voyez, on nous parle de cet intendant qui se met à frapper tout le monde, là. Alors, c'est les abus de toutes sortes, hein. Ce n'est pas forcément les abus pour lesquels l'Église est un peu tristement célèbre depuis, enfin, quelques années. Dramatiquement, même si elle a ce courage inouï d'être la première à se montrer sous cet aspect de certains de ses membres, pour lesquels on peut prier du reste, parce que leur éternité, elle est... on peut prier pour eux, hein. Et aussi pour ceux qui ont subi, bien sûr. Donc sinon, on entre dans la maltraitance de tous ordres, qui fait qu'on envoie promener quelqu'un, qu'on se met en colère, qu'un prêtre est exaspéré, voilà, etc. Vous voyez, c'est très important tout ça. L'intendant fidèle. Hein. Alors c'est justement là que je veux en venir. On dit que qu'est-ce qui lui arrivera à ce bonhomme-là, ou cette femme d'ailleurs, cet être humain qui agira comme ça? Eh bien, il y a cette phrase terrible, hein, on le mettra ou on la mettra parmi les infidèles. Alors, les infidèles, c'est quoi? En grec, c'est apistone, c'est-à-dire les sans-foi, les sans-pistos. Alors ça rembobine, hein. On revient à ce que je disais tout à l'heure avec Paul, quoi. Ben, s'il n'y a pas la foi, il n'y a plus l'Église. Si on n'a plus la foi, on ne voit plus l'Église. Et donc si vous ne voyez plus l'Église, si vous ne voyez plus l'Église, ben, inquiétez-vous de savoir si vous n'êtes pas en train de perdre la foi. C'est extrêmement grave, hein. Alors moi je pense par exemple à ces, bon j'en ai déjà parlé, mais ces membres de l'Église parfois très haut placés qui montent des rébellions contre le Saint-Père ou contre ceci ou cela. Moi je suis inquiet pour leur foi. Voyez. Je pense à un évêque qui un jour avait dit, c'est très antérieur ça, au sujet au moment de l'élection de Benoît XVI, je suis inquiet. Parce que ça lui plaisait pas que ce soit Benoît XVI. Ouais. Ben moi je me suis dit, moi j'étais inquiet pour la foi de l'évêque, quoi. Parce que c'est pas possible, vous comprenez. On peut pas être inquiet de ça, c'est des cardinaux sous l'influence du Saint-Esprit, sous la motion du Saint-Esprit choisissent quelqu'un. On ne peut pas être inquiet. Moi je suis inquiet pour la foi des gens qui sont inquiets. Vous voyez? Est-ce qu'ils vont être mis parmi les apistones ou pas? Enfin, c'est sérieux, hein. Ça rigole pas là. Hein. Parce qu'on peut rigoler, mais il y a un moment, on ne pourra plus rigoler. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'il ne faut pas mendier un don de foi en disant, Seigneur, je ne comprends pas, viens m'éclairer. On a le droit de ne pas comprendre. Hein. On a le droit d'être choqué, on a le droit de tout ce qu'on veut. Mais on n'a pas le droit de ne pas demander un accroissement de foi. Si on ne voit plus l'Église, c'est qu'on a un problème du côté de la foi. Et si on a un problème du côté de la foi, on ne voit plus l'Église non plus. Donc les deux se tiennent, hein, c'est très 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 important. Donc la question qui vient ensuite, c'est notre contribution au mystère de l'Église. Alors là, je vais mettre les pieds dans le plat, j'aime bien ça, vous savez. Il ne s'agit pas d'avoir une place. Hein, j'ai évoqué ça tout à l'heure. On parlait de place et de fonction. Voilà. C'est une question fallacieuse, c'est-à-dire fausse. Bon, vous voyez venir, hein. Quelle est la place des femmes dans l'Église? Eh bien, les femmes, elles n'ont pas de place dans l'Église, pas plus que les hommes. Personne n'a de place dans l'Église. La seule place que nous ayons, c'est la dernière. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le patron. La dernière place, Jésus a pris la peine de le dire. Et Jésus n'a pas dit, voilà, alors les deux autres là, Jean et Jacques, nous voudrions être à ta droite et à ta gauche. On voudrait des places, la dernière. Serviteur. Donc il n'y a pas de place ni pour les hommes ni pour les femmes. il y a une vocation de chacun. Et chacun est appelé à quelque chose. Et Paul le dit. Il y a les apôtres, les docteurs, les choses, les machins, les trucs. Et docteur, c'est masculin, féminin, hein, c'est pas genré au cas où vous auriez des questions. Hein. Bon, d'accord, pour le moment, il y a plus de docteurs déclarés tels chez les femmes que chez les hommes. Bon, ils sont déclarés, ok. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des femmes qui ne sont pas des véritables docteurs, même si l'Église ne les a pas encore vus. Voilà. Donc c'est très important de voir ça. Hein. Il n'y a pas question de place dans l'Église. On n'a pas la première place. On a une vocation. Et il vaut mieux, je vous garantis qu'il vaut mieux correspondre à sa vocation que chercher une place. Hein. Voilà. Donc la vraie question, c'est quelle est ma vocation? Et aujourd'hui, Jésus nous en parle. Notre vocation, c'est de distribuer tout ce que nous recevons, de le transmettre. C'est un peu ce que j'essaie de faire, du reste. Donc notre vocation, c'est de voilà, on n'a pas le droit de garder des choses pour soi. Nous n'avons pas le droit, c'est pas à nous. Ce que nous recevons dans la prière, ce que nous recevons dans la lectio, c'est pas à nous. On n'a pas le droit de le garder. Si on le garde, il va se passer quoi? Eh bien, il va se passer ce qui s'est passé au livre de l'Exode. Vous voyez peut-être pas bien le rapport. La manne dans le désert. Pendant 6 jours, vous ramasserez. Si vous en ramassez, vous en ramasserez pas le 7e jour. Et ceux qui ont voulu ramasser, dit le livre de l'Exode, eh bien, les vers se sont mis dedans. Eh bien, c'est la même chose, vous voyez. Nous, si on garde les choses au lieu de les transmettre, ça pourrit. Voilà, t'es fini en cancer. Nous devons transmettre tout ce que nous recevons. C'est en transmettant que ça fructifie. Voilà, vous voyez, ce commentaire, il m'a amené un peu loin. Mais je crois qu'il y a quelques vérités importantes qu'il faut rappeler de temps en temps. Eh bien, prions Dieu, instamment, pour que chacun entende sa vocation. Chacun ait le courage d'entendre quelle vocation il a, à quoi il est appelé, à quel changement il est appelé, à quelle continuation il est appelé, à quoi Dieu l'appelle. Regardez la petite Thérèse, comment elle a cherché sa vocation, elle n'en pouvait plus. Et tout à coup, un jour, elle dit « ma vocation, je l'ai trouvée ». On dirait que sa vocation, ce n'était pas une place dans le Carmel. Ben non, c'était l'amour, sa vocation. Yallah.